Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage sur les ondes de Radio Fil de l'Eau. Dans ce reportage, aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une classe du lycée Joseph Saverne, la classe de seconde 9, pour un projet impulsé par professeurs et documentalistes. Ce projet, c'est que les élèves ont pu rencontrer à trois reprises l'association Sportis et Xavier Seri. Ils vont nous expliquer ce qu'est l'association Sportis et également, du coup, des personnes en situation de migration qui sont venues leur raconter leur histoire. L'émission sera décomposée en plusieurs temps. Au tout début, ben voilà, une présentation du projet par les élèves, discussion avec des élèves autour de ce projet-là. Ensuite, il s'en suivra une présentation donc de Rokia, une personne en situation migratoire actuellement en France, qui présente son parcours, qui nous parle un petit peu ben voilà, de tout ce qu'il faut traverser niveau administratif pour pouvoir avoir ses papiers en France. Ensuite, s'en suivra ben, une interview directement de Rokia, une interview de Xavier Seri, directeur de l'association Sportis. Et en parallèle à ce projet, il y avait également des expositions au cœur du lycée Joseph Saverne. Et eh bien, des élèves vont nous parler un petit peu de cette exposition et nous présenter des photos. Voilà un programme bien chargé. Vous êtes bien sur Radio Fil de l'Eau dans le reportage de la semaine. C'est parti.
Moi, je vais présenter l'association Sportis. Il s'agit d'une association de solidarité internationale et de coopération par le sport qui œuvre à la fois en France et dans des pays étrangers. Sa mission est d'assurer la promotion et le développement de programmes de solidarité et de coopération internationale intégrant des activités sportives, physiques et artistiques auprès de populations en détresse ou en misère ou en grande difficulté.
Ça fait trois semaines que Sportis et Madame Bourdoncle nous présentent. Donc, pour l'instant, deux migrants sont arrivés avec Abdi Karim et Momine. Mais mardi prochain, on va recevoir Kouria. Donc, c'est des rencontres au CDI. C'est seulement notre classe. On est la seule à faire ça. Xavier est le directeur de cette association. C'est lui qui l'a fondée. Et aujourd'hui... En tout cas, toute notre classe est très heureuse de voir ces rencontres et on attend avec impatience la prochaine rencontre qui se déroulera le mardi 11 février.
Donc, nous avons rencontré Abdil Karim et Momine, qui sont des adhérents à Sportis et qui nous ont chacun raconté à nous, donc élèves de la classe de seconde 9 du lycée Joseph Saverne, leur parcours migratoire et leur situation en France. C'est mardi 28 et 21 janvier. Nous avons d'abord rencontré Abdil Karim, qui nous a raconté ses difficultés à rejoindre la France depuis son pays francophone, situé sur la pointe de l'Afrique, le Djibouti. Il nous a appris qu'après quelques difficultés administratives, il était actuellement en demande d'asile. Nous avons ensuite rencontré Momine, arrivé en France à ses 16 ans grâce à un avion, réfugié politique de la Palestine, qui nous a appris que son intégration et sa découverte de la culture française différentes de celle de Palestine.
Donc moi, je vais vous raconter un peu le bilan de la rencontre que nous avons fait avec Momine. Donc durant cette rencontre, nous avons appris qu'il était un réfugié politique qui a dû quitter son pays, qui est la Palestine, plus précisément dans la bande de Gaza, où il aura vécu trois guerres. Il est parti de son pays natal en 2018. Il s'est rendu dans un premier temps à Londres pour son travail, ville où il s'est aussi dubliné, puis en a profité pour aller directement en France. Tout son voyage s'est effectué grâce à de l'argent mis de côté. Aujourd'hui, Momine a 23 ans et il a vécu un an et demi dans trois familles d'accueil qui lui ont permis d'apprendre la langue française et notamment la culture. Ce qui lui a aussi permis de découvrir beaucoup de jeux de société différents de son pays natal. Il a été accueilli par ces trois familles d'accueil grâce à l'association Welcome GRS. Puis il s'est dirigé vers l'association Sportis, qui lui a fait découvrir un sport qu'il porte dans son cœur, qui est le rugby.
Moi, je vais vous parler d'Abdi Karim, du coup. Donc, il est de Djibouti, il a dû quitter son pays car il avait trop de problèmes, il a subi également des agressions physiques. Donc, durant son voyage, il a traversé Djibouti pour se rendre en Éthiopie. Il s'est ensuite rendu au Soudan pour aller ensuite en Libye. Tout ça en bus, puis il a ensuite pris un bateau pour se diriger en Italie sur l'île de Lampedusa. Tout ça a duré 3-4 mois. Il a ensuite dû aller pendant 2 semaines dans un centre de rétention en Sicile pour ensuite prendre un avion de Rome à la France. À chaque étape du voyage, les personnes étaient bien guidées, accompagnées donc par des passeurs. Sur le bateau jusqu'en Lampedusa, ils étaient environ 300 personnes. Sur ce bateau, ils ont eu la chance de rencontrer un autre bateau, car eux, leur bateau n'était pas adapté pour faire tout le voyage, et s'ils n'avaient pas rencontré ce bateau, ils ne s'en seraient peut-être pas sortis. Qu'un bateau aide un autre bateau, cela s'appelle la loi de la mer. Le bateau aurait pu les ramener en Libye, et le voyage serait terminé, mais encore une fois, ils ont de la chance que le bateau les ramène à bonne destination. Abdikarim avait les papiers que jusqu'en Éthiopie, après il faisait une sorte de cache-cache avec les autorités. Pour pouvoir faire ce voyage, il faut payer une somme au début qui nous servira pour tout le voyage. Abdikarim, lui, n'avait pas assez d'argent pour payer tout le voyage, alors durant le voyage, il a dû effectuer des travaux pour remplacer l'argent manquant. Quand il est arrivé en Italie, il a dû faire une demande d'exil ainsi que de mettre ses empreintes, sauf que lui voulait avoir l'exil en France. Une fois en France, il a donc fait une demande pour que l'exil soit fait. Sa demande a été acceptée. Au jour d'aujourd'hui, il est en attente d'une réponse pour savoir s'il a l'autorisation de rester en France. Si sa demande est acceptée, il pourra rester en France un certain nombre d'années, mais pas à vie. Si sa demande est refusée, alors il recevra un OQTF, donc c'est une obligation de quitter le territoire français. En attendant d'avoir une réponse, Abdikarim a la possibilité d'avoir un hébergement en colocation avec une personne dans la même situation que lui. Il reçoit également 200 euros par mois sur une carte contrôlée. Pour finir, Abdikarim fait partie de deux associations, Red Serre et Sportis.
Après cette rapide présentation sous forme de brève écrite par certains élèves, partons pour une première discussion avec un premier groupe d'élèves. J'ai pu m'entretenir avec 5 élèves où là, ils nous ont parlé un petit peu du projet, de comment ça s'était monté, des 2 premières rencontres, de ce qu'ils en retiennent. On est parti. Et allez, je suis accompagné de 5 élèves de la classe de seconde 9 du lycée Joseph Saverne de l'Île-Journain dans le cadre donc de ces rencontres avec l'association Sportis. Ces rencontres, voilà, cette association vous a emmené donc au lycée des personnes en situation de migration. On va en parler. Juste déjà, je voulais faire un petit tour de table pour vous présenter. Donc, on avait Kim, avec Séverin, avec Benjamin, avec Benoît et avec Florian. Bonjour à tous les 5.
Bonjour.
Donc, ces rencontres au lycée, il y en a eu déjà 2. Moi, je voulais savoir, je ne sais pas si vous avez préparé à cette question, mais je voulais savoir déjà comment vous avez pris le projet quand on vous l'a présenté, quand on vous a dit il va se passer ça au lycée, il va y avoir des rencontres, etc. Comment vous l'avez pris sur le moment? C'est quelque chose qui vous intéressait? Pas plus que ça? Et n'hésitez pas à être honnête, si c'était pas le cas, c'est pas très grave.
Au départ, j'étais pas forcément au courant qu'il y avait ça, j'avais un peu oublié, mais j'ai trouvé.
Ok.
Mais je trouve quand même très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une vue plus. Enfin, pas vraiment plus précise, mais. Je sais pas comment le dire, mais. Enfin, une autre vue sur le sujet.
Ok.
Donc qui est expliquée directement par les personnes en situation de migration.
Ouais.
Donc je trouve ça très intéressant et qui est une expérience à avoir, effectivement.
Ok. Pareil, tour de table un petit peu pareil, même question. Hein, quand on vous a présenté le projet, quand on vous en a parlé, comment vous l'avez pris?
Moi, je trouvais que c'était une très bonne idée, surtout que c'est pas toutes les classes qui peuvent le faire et tous les professeurs qui mettent en place ce dispositif. Et leur témoignage, je trouve ça très intéressant. Grâce à ça, on peut se rendre compte... avec des manières plus réelles, plus humaines, des conflits qui se passent dans le monde. Et c'est vraiment, c'est l'histoire contemporaine, et au lieu de s'informer avec la télévision ou la radio, même si c'est très intéressant, je trouve ça vachement humain et plus touchant que regarder les infos, par exemple.
Ouais, plus réel, quoi, en fait, tout simplement, quoi. C'est vrai, mais même question, hein, un petit peu, comment t'as reçu le projet quand on te l'a présenté?
Moi, je me suis dit que c'était super de découvrir un autre point de vue des migrations, parce que à la radio, pareil, à la télé, on en entend beaucoup parler, mais on sait pas ce qu'eux, ils ressentent vraiment.
Ouais.
Donc, j'ai trouvé ça super.
Et ouais, c'est surtout un point de vue souvent journalistique, en fait, qu'il y a sur les plateaux de télé ou dans les radios, donc du coup, c'est pas forcément les personnes concernées qui parlent, quoi. Pareil, même question, mais nous on continue le tour de table, Benjamin. Même question, à l'annonce du projet, comment tu l'as pris?
Comme on s'est bien dit, Kim et Séverin, le fait du témoignage, c'est vraiment très touchant, bien plus que tout ce qu'on a pu entendre à la radio. Et parce que à la radio, parfois, c'est des personnes qui n'ont aucune information. Eux-mêmes, juste avant, ils ont fait des recherches sur d'autres sites. Alors que là, c'est vraiment leur histoire propre et ça change à chaque témoignage, donc ça qui est vraiment fort.
Ouais. Ouais, c'est sûr que j'imagine que chaque parcours de toute façon est différent, mais ça, on va en parler juste après. Et pour clôturer, pareil, à l'annonce du projet, comment tu l'as pris toi, Benoît?
Alors au début, je savais pas vraiment à quoi m'attendre.
D'accord.
Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que en fait, c'était vachement intéressant de cette approche du sujet. Ça changeait de ce qu'on avait pu apprendre avant et puis aussi de ce qu'on apprenait avec les informations. Et...
C'était des sujets qui vous parlaient un petit peu avant, qui vous touchaient ou pas plus que ça, encore une fois, sans aucun jugement, sans rien, mais est-ce que quand on parle d'immigration, de parcours migratoire et tout ça, avant ces rencontres-là, est-ce que c'était des sujets qui vous intéressaient ou qui vous touchaient? Vas-y, hein.
Moi, ça m'intéressait, oui, pas forcément le plus, pas vraiment tant que ça, mais oui, je m'y intéressais un peu, et après ça, oui, je m'intéresse un peu plus.
C'est déjà pas mal.
Après, moi, dans ma famille, il y a eu des parcours migratoires, du coup, c'est quelque chose qui me touche énormément, et quand je peux entendre d'autres témoignages, c'est vraiment quelque chose, je le ressens en moi, quoi, c'est... Je les comprends.
Et oui, on est souvent plus touché forcément par quelque chose qui nous parle, une histoire familiale ou des choses dans le genre. Forcément, on est souvent un petit peu plus touché.
Bah, pour ma part, j'ai déjà participé de nombreuses fois à des petites soirées, des repas avec des personnes qui venaient d'arriver en France. Donc, je connaissais déjà un peu le milieu.
Ouais, pareil, t'étais déjà connaisseur un petit peu du sujet, quoi.
Exactement.
Moi, c'était vraiment une découverte. J'avais une fois rencontré un groupe... récemment de Libanais qui est rentré, donc super enrichissant, et là pareil.
Ok, génial. Et pareil, même question du coup, voilà, est-ce que c'était un sujet qui te touchait, qui t'intéressait avant, les choses sur lesquelles tu te penchais ou pas spécialement?
Oui, surtout avec ce qui se passe en Syrie par exemple, où je me suis dit, ils doivent faire le trajet retour maintenant.
Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué, ouais. Allez, on en vient à ces rencontres. Donc, il y en a déjà eu deux qui sont passées au lycée. Il y en a la troisième, au moment où on enregistre, la troisième est encore à venir, sur laquelle je vais me déplacer. Qu'est-ce que ça a pu, comment vous les avez vécu déjà? Déjà, racontez-nous un petit peu comment elles se passent d'ailleurs, ces rencontres. Ça se passe comment? Un peu s'organiser comment du côté du lycée?
Donc, les rencontres, elles se passaient un peu on se réunit au CDI, donc l'association sportive aussi, avec Xavier.
Ouais.
Et donc, la personne en situation de migration aussi. Donc, moi, j'étais pas présent pour la première, j'étais malade.
Ouais, bravo.
Mais sinon, pour la deuxième, donc avec Momine, on est venu, on a représenté, enfin, Xavier a un peu représenté très vite fait l'association.
Ouais, ok.
Puis il a laissé la place à Momine qui a parlé de son histoire.
Ok. Vous connaissiez l'existence de cette association de Sportis avant qu'elle vienne présenter au lycée ou pas du tout?
Absolument pas.
Absolument pas. Aucun. Si je fais un peu le tour du studio parce qu'il y a les cinq autour de la table, mais ils sont nombreux dans le studio. Vous connaissiez l'asso ou pas du tout? Non plus. Ça marche. Donc ça a vraiment été la découverte. C'est bien. Ça sert à ça aussi. Et ces échanges, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une histoire? Vous pouvez discuter un peu avec, poser des questions. Comment ça se passe un peu après une fois que la discussion est lancée?
Oui, on peut discuter avec eux, mais c'est quand même assez délicat parce qu'on ne peut pas poser des questions trop personnelles.
Ouais.
Enfin, je pense qu'on peut, mais si ça peut être... On ne connaît pas les personnes, donc on ne sait pas s'ils vont mal le prendre
ou délicat,
pas.
C'est délicat.
Donc des fois, on a des questions qui nous trottent dans la tête et on n'ose pas forcément les poser. Et c'est souvent les plus intéressantes. Et donc après, il y a quelques petites questions qui se posent, mais il y a toujours... en tout cas, je sens toujours des personnes qui se retiennent. Parce que donc on veut pas faire de faux pas ou déraper, quoi.
Ouais, c'est ça, par peur de gêner, de mettre un petit peu mal à l'aise ou quoi. Oui, c'est sûr que c'est délicat, hein, comme sujet, c'est vraiment pas évident. Pareil, le ressenti un petit peu au niveau sur ce qu'elle dit Kim là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Vous auriez aimé peut-être aller poser quelques questions, gratter un petit peu plus, mais vous avez dit ouais, c'est un peu compliqué.
Par rapport aux questions justement qui étaient assez complexes à poser de temps en temps, je pense que on les aurait côtoyés depuis plus longtemps, il y aurait une complicité qui serait créée en 3 semaines. C'est complexe de tisser des liens qui nous permettent d'entrer un peu plus dans leur intimité.
Oui, c'est sûr, c'est peut-être des questions qu'on pourrait se permettre de poser en connaissant un petit peu plus la personne. Encore une fois, donc il y a eu ces deux premières rencontres, il y a la troisième à venir. Là déjà, on va dire, on est à mi-parcours à peu près de ce projet-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que vous disiez tout à l'heure, c'était enrichissant. Découvrir un petit peu ce que peut être un parcours migratoire, suivant d'où viennent les gens et des conflits aussi qu'il peut y avoir dans le monde. Là aujourd'hui, si vous deviez faire un petit bilan entre guillemets de tout ça, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez appris peut-être aussi de tout ça, de ces personnes, de cet asso?
Moi, par exemple, l'inverse de Florian, j'ai loupé la deuxième rencontre.
Ok, vous n'avez pas envie de vous voir, en fait.
et la deuxième, j'ai entendu dire que Moumine, il avait pris l'avion.
Okay.
Et donc ça a été rapide comme parcours migratoire que Abdi Karim, il l'a fait en bus, pied, en bateau. Et lui, ça lui a pris vraiment plusieurs mois. Et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient vraiment pas tous le même...
Ça, comme on disait tout à l'heure, à chaque un peu, à chaque situation, son parcours et son histoire, quoi. D'où est-ce qu'ils étaient et d'où est-ce qu'ils sont originaires les deux personnes que vous aviez déjà reçues, là dans ces deux premiers échanges.
Alors Abdi Karim, il est de Djibouti.
Ok.
Et Moumine de la bande de Gaza.
Ok, donc il vient de Palestine, ouais. Oui, on en parle beaucoup. En plus, ces derniers temps, hein, effectivement. Même question, on continue un petit peu donc le tour de table. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter un petit peu, ou je sais pas, vous éclairer sur certaines choses, vous apporter un œil nouveau sur quelque chose. Ce serait quoi que vous retiendriez là de ces échanges?
J'ai remarqué quelque chose, surtout c'est l'importance de la langue française surtout avec Momine.
Ok.
J'ai trouvé que la langue française avait vraiment quelque chose d'important pour lui. Donc, de ce qu'il nous avait dit, pour lui, c'est il faut apprendre la langue d'un pays quand on aime sa culture. Donc, il aime la culture française, okay. Ça aussi. Les jeux de société aussi ont joué un rôle important dans son intégration en France.
Excellent. C'est pas la première chose à laquelle on pense, effectivement, que les jeux seraient... Ok, génial.
Parce que, donc, ça c'est... Donc, il nous a raconté ce qui s'est passé quand il est arrivé en France. Donc, il a passé 18 mois à attendre, et il attend encore... la réponse à sa demande d'asile.
Ouais. C'est toujours très long.
Pendant un an et demi, si je me souviens, il a passé en passant par différentes familles d'accueil. Et donc les jeux de société ont permis de tisser des liens un peu plus rapidement.
Génial.
Et donc les jeux de société, qui sont d'ailleurs très différents en France qu'en Palestine.
Et j'imagine. Ouais.
Donc lui, il était plutôt habitué à des jeux de société où c'est fait dans la terre.
Oui, ça où tu trouves que tu joues avec ce que t'as en fait, quoi.
Oui. Et en France, c'est des jeux de société avec des plateaux, tout ça.
Oui, c'est sûr. Même question, on continue un peu le tour de table. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Qu'est-ce que vous avez appris un petit peu de toutes ces rencontres? Vas-y, Benoît, je t'en prie, pardon.
C'est surtout Momine, ça a été presque un exemple, parce qu'il nous a appris l'importance de s'ouvrir aux autres cultures, et puis aussi de chercher à donner aux autres. Et il y a une phrase justement qu'il a dit, et qui m'a beaucoup touché. Il disait « Si je ne donne pas maintenant, ce sera quand le moment de donner ?» Et donc vraiment, ça m'a interpellé. Et oui, on ne se rend pas forcément compte, mais... Le lien avec les autres, c'est très important, et alors que maintenant, c'est moins privilégié avec les réseaux sociaux où on est moins en contact direct.
On est censé être plus connecté, mais est-ce qu'on ne parlerait pas au final moins aux gens qu'avant? C'est pas impossible. Benoît, je te laisse parler la parole un petit peu. Qu'est-ce que ça t'a apporté un petit peu, tous ces échanges? Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre? Qu'est-ce que t'as découvert un petit peu lors de ces deux rencontres?
Comme l'a déjà amené Florian, les jeux de société.
C'est toi aussi, c'est un truc.
Il a vraiment insisté dessus, et parce que ça permet vraiment de fédérer les familles. De nos jours, tout le monde a sa petite armoire avec plus ou moins de jeux de société. Ça dépend des familles, mais.
On voit qu'apparemment c'est pas tout le monde, hein. Quand tu fais un tour de table comme ça, nous, moi pas plus que ça.
C'est sûr, peut-être moins de nos jours, c'est sûr. Mais quand il est arrivé, du coup, ça lui a permis de tisser des liens, parce que le soir, il mangeait et puis après il faisait un jeu. Et donc, même quand on comprend pas forcément la langue, il y a certains jeux, même en parlant pas la même langue, on comprend vite fait les règles et ça permet de jouer. Et donc, le principe a été après repris par l'association. Avec certains jeux qui permettent de rassembler les différents immigrés.
Ouais, d'accord. Donc on voit que du côté sportif aussi, du coup, ils se servent un petit peu des histoires de ce que peuvent raconter, pour proposer aussi quelque chose. Ok, c'est excellent. C'est vrai, pareil. Si tu devais retenir quelque chose un petit peu de ces deux premières rencontres, encore une fois, je rappelle qu'il y en a une troisième à venir au moment où on enregistre. Qu'est-ce que tu gardes en fait, tout simplement, de tout ça?
Moi, c'était surtout, même s'il en a pas beaucoup parlé, le passage en Libye de Abdi Karim, qui a été un passage très difficile pour lui, où il a subi du travail forcé.
Ah ouais, d'accord. Et oui, il y a eu à un moment donné en Libye, on parlait de problèmes d'esclavage, de retour d'esclavage de certaines personnes. D'accord, ouais, c'est quelque chose qui l'a pu. Ouais, forcément, j'imagine que ça marque. Et pour ton coup, tu es le tour de table, Kim, même question. Un petit peu, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu retiens de tout ça, de ces échanges?
Alors, c'est rigolo parce que moi, je me retrouve plus justement dans Abdikarim et Moumine que du coup dans les familles d'accueil qui ont pu recevoir Moumine.
Okay.
Parce que c'est vrai que par exemple, ma mère est immigrée. Mm-hmm. Et du coup, on n'a jamais eu de, par exemple, de jeux de société à la maison.
Okay.
J'ai toujours détesté ça.
C'est vrai.
Et on avait toujours les jeux que du coup, quand ma maman allait dans son pays d'origine, qu'elle nous ramenait. Mais c'est des jeux très simples avec des plumes, par exemple. Ouais. Et donc moi, ça m'a fait bizarre de me dire que le petit stéréotype de dans toutes les familles françaises, il y a des jeux de société, alors que bon, mon père est français et ma mère a la nationalité française maintenant.
D'accord.
Donc c'est un exemple, mais ça m'a pas choqué, mais ça m'a interpellé de me dire que je me retrouvais plus dans ces personnes-là que dans les familles françaises.
Dans les jeux auxquels ils pouvaient jouer eux là-bas quand ils étaient encore dans leur pays, que au final les jeux de société ici. Ouais, c'est ça marche ça. Effectivement. Ben chacun, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chacun a un peu son œil et sa vision sur les choses. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez de cette troisième et dernière rencontre? Déjà, est-ce que vous aurez, je sais pas, est-ce que les professeurs ils vous ont donné du travail à fournir après par la suite, des choses comme ça ou pas? ou est-ce que c'est juste la rencontre comme ça, ou il va falloir bosser un petit peu quand même après?
On a dû prendre quelques notes pendant les rencontres, mais sinon, enfin,
ça va.
On a peut-être retracé les parcours, mais okay. À part ça, pas ou alors les professeurs nous préparent quelque chose, mais
ce sera un peu la surprise. Voilà. Ça roule. Qu'est-ce que vous attendez de cette dernière rencontre? Du coup, vous connaissez la personne, vous savez d'où elle vient, ou ça va être la découverte pour cette troisième rencontre?
Non, ce sera une découverte. On
okay.
ne sait pas. Ou alors, à part si ça a été dit au début, mais il n'était pas là.
lors de la première. Non, ouais, je crois que ça va être la surprise apparemment la découverte en tout cas pour la troisième et dernière rencontre à laquelle je serai présent. Merci beaucoup en tout cas, Kim, Séverin, Benjamin, Benoît et Florian d'avoir pris la parole. C'est pas toujours évident de venir parler comme ça au micro. Merci à tous les cinq. Merci.
Au revoir.
Après cette première discussion donc avec ce premier groupe, un second groupe est passé devant mon micro. Celui-là, plus pour parler des différences qu'il peut y avoir d'alimentation, par exemple, entre les personnes qu'ils ont pu rencontrer et la France. Et également, il nous parle un petit peu, sans trop rentrer dans le détail, des expositions qui ont pu avoir lieu en même temps que ce projet au sein du lycée Joseph Saverne. Allez, deuxième discussion, toujours avec des élèves de la seconde 9 du lycée Joseph Saverne à Lille-Jourdain. On va faire un tour de table. Il y a Noé, Gabi, Kim, William et Nathan. Bonjour ou re-bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien, vous êtes en forme?
Ça va en forme.
Très bien.
Parfait. On est là pour parler un petit peu de ces rencontres donc qui sont passées au lycée. Il y en a eu deux, il y en a une troisième qui va venir mardi prochain au moment où on enregistre. Ces rencontres donc entre votre classe, l'association Sportis et des personnes en situation de migration. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec le groupe précédent des ressentis, des choses qui avaient pu ressortir, des choses qui l'ont marqué, tels les jeux de société par exemple, ce lien. Moi je voulais vous demander un petit peu qu'on parle d'alimentation, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui est un petit peu sorti du côté de pendant ces rencontres. Justement, qu'est-ce qu'on est sorti? Qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ça? Quelle différence vous faites entre les histoires qu'on a pu vous raconter et votre vie quotidienne un petit peu?
Momine nous a dit que chez lui, il n'avait pas entrée plat dessert et que c'était quelque chose qui l'avait vraiment marqué en France.
Ok.
Chez lui, c'était plutôt tous les plats sur la table et chacun se sert comme il veut. Et il a trouvé bien le principe de entrée plat dessert. De France.
Ok, donc oui, c'est plus ils sont plus sur des plats communs en fait. Oui, nous c'est vrai.
Exactement.
Et puis nous ça c'est très français d'avoir l'entrée, le plat, le dessert, nos petites habitudes, nos petites manies. C'est très français. Qu'est-ce qui en est ressorti? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'ils vous ont dit des choses qu'ils avaient l'habitude eux de manger peut-être dans leur pays et pareil les différences avec les plats qu'il peut y avoir ici en France ou quoi?
Alors c'est vrai que il nous avait raconté aussi que. Dans sa culture, c'était plus tout simplement tous les plats disposés sur table et après qu'on piquait dedans, quoi, en fait.
Okay.
C'est vrai que ça se fait pas mal dans d'autres pays aussi.
Ok. Oui, c'est pas que forcément, c'est pas que de son côté à lui, c'est des choses que, ouais, c'est très culturel. Après, l'alimentation, la nourriture, c'est vrai que c'est toujours, quand on change de pays, quand on va, qu'on voyage, qu'on aille en Asie, qu'on aille dans certains endroits en Afrique ou quoi, on voit qu'il y a des grosses différences. Je voulais venir aussi, il y avait eu des expositions, si je me trompe pas, qui étaient accrochées aussi pendant tout ça. Qui c'est qui peut nous présenter? Je crois qu'il y en avait deux, hein, c'est ça, c'est de mémoire ce qu'on m'a dit, il y avait deux expos différentes. Qui c'est qui nous les présente rapidement, ou en tout cas à quoi ça ressemble, et je vous demande pas de rentrer forcément dans le détail, mais en tout cas ce qui était affiché, ce qui ressortait de tout ça.
Ben, au niveau des photos, c'était si je me souviens bien, c'était des moments des immigrés de l'association Sportis.
Ok.
Des activités sportives qui passaient ensemble, surtout un moment convivial qui passait tous ensemble, parce que en fait ils se connaissaient pas forcément, mais à travers leur histoire ils se retrouvaient. Et ça leur permettait un peu de se découvrir ensemble. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant sur ce point de vue.
Et c'était eux, Sportis, qui avaient proposé cette exposition. C'était eux qui prenaient les photos, ou en tout cas qui les proposaient, quoi.
Oui, je crois bien.
Ouais, ok. Gabi, deuxième expo. Du coup, là, c'était plus sur, autour de la presse, hein, il me semble.
Je crois que c'était les caricatures ou des dessins de presse.
D'accord.
Sur différents sujets.
Et du coup, Nathan, je crois que tu voulais... Toi, tu te rappelles.
Oui, on avait donc une expo de 12 affiches, si je me rappelle bien, avec donc des explications, avec des caricatures, notamment.
Ok.
Donc, on a appris la différence entre migrants, demandeurs d'asile, les migrants légaux, les migrants illégaux, à travers des caricatures, donc à travers l'humour. Donc, c'était une bonne manière d'apprendre, je trouve.
Et justement, est-ce que vous, du coup, maintenant que vous avez pu faire un peu cette différence, est-ce que dans la presse française, de manière générale, je ne sais pas, sur les plateaux de télé, dans les radios, dans la presse écrite, est-ce que c'est justement le bon langage qui est employé de manière générale quand on parle d'immigration, justement, la différence entre migrants, quoi? Je te vois secouer la tête, Gabi. C'est pas bon, apparemment?
Je sais pas, mais juste des fois, non.
Ouais, c'est sûr que...
J'ai pas d'exemple.
T'as pas... Ça marche, pas de soucis. Justement, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer? Si, par exemple, si je vous dis le mot migrant, par exemple, c'est... Alors, avec vos mots, vous souhaitez, mais la définition, entre guillemets, qu'est-ce que c'est un migrant?
C'est une personne qui change de pays pour cause politique ou autre chose.
Ok. Et est-ce qu'un demandeur d'asile, par exemple, est forcément migrant? Est-ce qu'un migrant est forcément demandeur d'asile? Vas-y, Kim.
Si je me souviens bien, ceux qui vont faire une demande d'asile, c'est les migrants qui ont été obligés de partir pour soit raison politique, avec la guerre, ou vraiment des choses qui les ont forcés à partir. Et donc, il peut y avoir des migrants, mais par exemple, des migrants par rapport à leurs études. Donc on peut migrer de France au Royaume-Uni parce qu'on veut faire des études à Londres, par exemple.
Bah oui. Et c'est ça, on entend souvent sur certaines chaînes de télévision ou quoi, le nombre, tous les ans on nous rappelle le nombre de migrants qu'il y a en France, mais là-dedans il y a l'immigration légale qui est tout le temps comptée aussi. Comme tu dis, par exemple, les gens qui viennent en France pour les études, en fait, sont comptés dans ce genre de calcul, pour soi-disant faire grossir, on a envahi en France l'immigration, etc. Ce genre de discours qu'on peut entendre parfois. Dernière question, il reste une troisième rencontre à venir mardi prochain, au moment où on enregistre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous savez à quoi vous attendre? Est-ce que vous savez qui c'est qui vient? Quelle nationalité sera représentée? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui va se passer un petit peu mardi prochain?
Une femme qui vient du Mali, je crois.
Ça marche. Et je sais pas, vous savez à quoi? Qu'est-ce que...
Elle s'appelle Rokia, je crois.
Rokia, ok. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à cette rencontre-là?
Les deux rencontres qu'on a fait auparavant, c'était des hommes, donc peut-être que ça sera plus différent. Et il y a quand même une grosse différence homme-femme sur tous les points, généralement. Ouais. Et on ne subit pas les mêmes choses, on ne les voit pas de la même manière. Et je pense que ça peut, nous, aux filles de la classe, ça peut plus nous parler que... Alors, pas forcément, mais je m'attends à quelque chose qui va peut-être, je ne sais pas, hein, plus me toucher que les autres rencontres.
Oui, c'est ça, et puis de peut-être faire la différence aussi, parce que dans certaines régions du monde, de parler aussi des droits, enfin de comment ça se passe dans certains pays, dans certaines régions du monde, et de, pareil, de faire la comparaison avec ce qui se passe chez nous, ça va peut-être effectivement marquer encore une fois des différences. Merci beaucoup à tous les cinq d'être venus à mon micro, et de toute façon, là, on termine, et puis on se revoit mardi, parce que je vais venir aussi enregistrer les échanges qui vont se passer au lycée. Merci beaucoup à tous les cinq.
Au revoir.
Après avoir discuté donc avec ce groupe d'élèves qui nous ont présenté ces deux première rencontre, on va pouvoir écouter un morceau. J'ai pas tout mis, bien sûr, parce que c'était très long. Évidemment, l'échange a duré environ une heure et demie, mais je vous ai sélectionné un morceau donc où Rokia, la personne reçue ce jour-là, présente un petit peu le parcours administratif aux élèves. Le parcours administratif, comment on fait en France pour avoir des papiers quand on est exilé, quand on est demandeur d'asile. Voilà, elle raconte un petit peu tout son parcours. Cet échange donc est tiré de la rencontre entre Rokia et les élèves de seconde 9. On va écouter ça.
Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu, en essayant de donner des dates à peu près pour qu'on ne se perde pas, comment toi tu as fait un parcours en termes de demande d'asile? Et peut-être après on verra pourquoi tu as quitté le pays, si tu as envie de le dire, mais d'abord la demande d'asile en France.
Bonjour. Moi je suis venue en 2020. Je fais mon demande d'asile au mois de septembre. Et pour faire une demande d'asile, il faut d'abord chercher les 115 pour un hébergement. Et il faut appeler au téléphone, soit aller sur place. Et quand vous êtes allé sur place, évidemment, vous n'avez pas rendez-vous, il faut revenir demain, il faut revenir après-demain, ça dépend. Et il y a une autre structure qui s'appelle Forum Réfugié. Et lui, quand tu pars, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Il vous dit c'est quoi votre besoin. Et il vous prend aussitôt un rendez-vous à la préfecture pour savoir si vous êtes quitté d'autres pays frontaliers comme la France, l'Espagne, pour pouvoir mettre des empreintes, pour voir si effectivement vous avez passé d'autres pays. Et si on vous trouve le rendez-vous, et puis on vous dit de retourner d'abord au 115 pour trouver d'abord l'hébergement, pour savoir comment on peut vous analyser psychologiquement pour vos démarches. Et si ça ne marche pas, vous pouvez dormir dehors pendant 2 jours, 3 jours et attendre les 115 à vous trouver un endroit. Dès que les 115 à trouver un endroit, on vous met parfois dans un hôtel ou on vous met dans d'autres associations. Et quand on vous met dans l'association, et la préfecture vous appelle, vous dit « Madame, vous avez rendez-vous par exemple le lundi. » Et quand vous partez, on met des empreintes, des 10 doigts pour voir si vous avez passé l'Espagne ou l'Italie d'autres. S'il n'y a pas vos empreintes, on vous met dans une procédure, ça s'appelle la procédure normale. Après, quand on vous met dans les procédures normales, le 115 vous héberge en même temps d'attendre une association qui s'appelle l'ECADA ou l'EIDA. Il va vous prendre pour poursuivre vos procédures. Et quand les cadavres vous prend, ça va faire au moins 1 an à 2 ans pour poursuivre vos procédures. Et pour mon cas, je fais 2 ans dans ma procédure. Il faut des rendez-vous, aller voir le médecin du monde pour voir si vous n'avez pas d'autres maladies comme on appelle comment. Le problème de poumon ou soit de tuberculose, de voir si vous avez des sida, tout ça là, si c'est bon. Et maintenant, après, on appelle comment là, vous avez 1 mois pour écrire votre récit. Les récits, ça s'appelle, c'est une récit de vie. On écrit notre histoire, notre parcours, comment on a fait pour venir en France. C'est quoi notre histoire? Comme par exemple moi, c'était un mariage forcé. Donc je devais écrire pourquoi j'ai quitté mon pays, pourquoi je suis venue ici en France, je cherche quoi exactement, un asile. Donc vous avez 1 mois. Donc le Forum Réfugié vous aide à rédiger votre récit de vie. Quand vous avez fini de faire votre récit de vie, après l'OFRA, il faut aller à l'OFRA les déposer avant 1 mois. Donc quand on dépose, donc l'OFRA vous donne rendez-vous, il faut aller juste à Paris pour expliquer ce que vous avez écrit sur votre récit de vie. Il ne faut pas oublier des dates, il faut pas oublier comment vous êtes rentré ici, à quel moment,
Et il faut tout rédiger, ce que vous avez écrit, il ne faut pas oublier aucun sujet. Donc si ça se passe bien, on te laisse un mois ou deux mois avant qu'on te donne le résultat. Parfois c'est positif ou c'est négatif. Quand c'est négatif, il faut encore redemander pour aller à la CNDA. Là aussi ça se trouve à Paris. Et quand c'est négatif, il faut aller à la CNDA. La CNDA, ça peut faire 4 mois ou 5 mois, comme ça, pour attendre. Et quand vous partez à la CNDA, et là, vous avez des juges, vous êtes avec votre avocat déjà de base, avec des juges, au moins 5 à 6 personnes devant vous, et vous expliquez encore votre récit de vie. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour avoir les résultats. Et si le résultat n'est pas bon du tout, on fait les résultats négatifs. Et là, maintenant, automatiquement, vous avez l'OQTF. Ça s'appelle les titres de quitter les territoires français. Vous avez 30 jours pour quitter les territoires français. Et si vous voulez faire un recours pour annuler les territoires français, il faut aller encore voir un autre tribunal. Ici, c'est ça. Ça se trouve à Toulouse, ici. Donc, vous avez un mois ou deux maximum pour préparer. Et si ça ne marche pas, on vous renvoie encore un autre OQTF.
OQTF. On en parle un peu là.
D'accord. Des titres de quitter les territoires français. Et si ça ne marche pas bien, et là, vous attendez, vous ne faites plus rien. Sinon, en cas d'infraction ou bien si vous ne payez pas, par exemple, vos titres de transport, là où il y a des manifestations, il ne faut pas faire des choses louches, il faut rester calme dans votre coin. Et la moindre erreur, on vous prend et vous retournez dans votre pays. Vous avez des questions?
On va revoir parce qu'il y a eu plusieurs trucs, c'est bien. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire pour toi, quand tu es allé raconter ton histoire la première fois, la première réponse après 2 ans d'attente, qu'est-ce qu'elle a été cette réponse pour toi?
Moi, c'était négatif.
Est-ce qu'on a t'a donné une explication?
Ils m'ont dit j'ai pas trop on appelle comment là, j'ai pas trop donné le pourquoi je suis venue en France, j'ai pas trop donné des explications, j'étais trop centrée sur j'ai pas trop donné les détails sur mon histoire, donc ils trouvent que je peux retourner dans mon pays, il n'y a pas de danger pour eux. C'est que moi je sache, je sais que l'avocat m'a dit pour eux il n'y a pas trop on appelle comment là, il n'y a pas trop moyen de rester ici en France. Et puis, je n'ai pas le droit du territoire français parce que je n'ai pas fait des études ici. Ou soit je ne suis pas venue en tant que mineure. Donc, je peux retourner dans mon pays.
Tu n'as pas dit ton pays, je crois, aujourd'hui.
Le Mali. Je suis malienne. Je suis de nationalité malienne.
Donc, tu as fait un appel face à ce que tu as nommé le CNDA. Oui. C'est une cour d'appel pour demander un asile. Et là, elles t'ont répondu quoi à la cour d'appel où il y avait les juges?
J'ai récité mon histoire comme j'avais fait dans le récit des vies. Après, l'avocat aussi, elle a détaillé c'est quoi mon danger dans, en cas de retour dans mon pays. Après, ils m'ont dit bon, merci madame, on vous revient dans 2 semaines. Et j'ai attendu les résultats, c'était négatif aussi.
Donc, tu as reçu ce fameux courrier?
Oui.
Qui s'appelle OQTF.
Non, avant l'OQTF, on reçoit d'abord le papier pour savoir si vous avez obtenu l'asile ou pas. On écrit seulement positif ou négatif. Donc moi, j'avais réussi, c'était négatif.
D'accord. Donc juste après, quelques jours après, tu as eu le courrier numéro 2.
Non, ça m'a fait combien de mois que j'ai attendu? Ça m'a fait 4 mois, 6 mois. Je pensais que j'en avais pas.
Ah.
Et puis, j'ai demandé à mon ex-assistant sociale, elle m'a dit c'est automatique. Donc on a attendu, après 6 mois après, on m'a envoyé l'OQTF.
Qu'est-ce que tu as fait quand tu as reçu l'OQTF?
Lorsque j'ai reçu l'OQTF, j'ai demandé conseil à l'assistant social. Elle m'a dit on peut faire appel. Donc on a pris un avocat, on a déposé des dossiers à la cour administrative de Toulouse pour voir si on peut annuler. Et quand on a déposé, après on nous a réussi, encore je récite encore le récit de vie. Après, le juge m'a dit, dans un mois encore, on va me répondre. Après, quand on m'a répondu, on m'a dit, non, je dois encore quitter dans 15 jours.
Donc, tu avais 15 jours pour partir.
Pour partir.
Après donc ce court passage de cette discussion entre Rokia et les élèves donc de seconde 9 du lycée Joseph Saverne toujours, cette fois-ci on va avoir derrière mon micro en deux temps, d'abord Xavier Séry, président donc de l'association Sportis qui est derrière tout ça en compagnie des professeurs donc et documentalistes du lycée, et une seconde interview qui est Rokia elle-même qui nous parle, bah, qui nous explique pourquoi elle fait tout ça, pourquoi elle vient parler aux lycéens là en l'occurrence, mais également aux collégiens, aux élèves d'élémentaire. C'est parti. Allez, on arrive à la fin donc, de cette rencontre entre la classe de seconde 9 du lycée et l'association Sportis et Rokia, donc, que vous avez entendu juste avant. Je suis en compagnie de Xavier Séry, qui est directeur de l'association Sportis. Raconte-nous un petit peu ce projet de rencontre entre cette classe de seconde 9, les personnes que tu as pu emmener, parce qu'aujourd'hui c'était Rokia, mais il y a eu deux rencontres précédemment. Comment ça s'est fait et l'importance justement de ces rencontres?
Ça se fait parce que déjà un enseignant a envie qu'il y ait ce type de rencontre pour ses élèves, pour donner un petit peu de matière et de réalité à la question migratoire. Donc là, on saute sur l'occasion. Pour nous, ça correspond à nos rencontres masolo, qui veulent dire dialogue, en lingala, la langue de Rokia justement, et dialogue avec les jeunes, pourquoi pas, notamment prioritairement, dialogue dans les lycées, parce que c'est là que les jeunes vont avoir une écoute. En seconde, ils traitent de la question. En quatrième aussi, dans les collèges, ils traitent de la question migratoire. Donc on croise le programme et nous, notre capacité à lui donner un petit peu corps. Rencontre Massolo, ça veut dire qu'on prend une exposition qui existe depuis quelques mois et qui célèbre les 5 ans d'un projet qui s'appelle Sporter d'accueil. Cette exposition, elle est l'outil d'entrée pour appréhender ce projet qui permet aux gens de se croiser à travers l'activité physique et sportive, à être dans l'interculturalité. Et cette exposition, on l'accroche et ensuite on développe selon les questions, les préoccupations du public, on développe une relation assez spontanée. On n'a pas formaté l'intervention. On pourrait se retrouver devant des élèves plus jeunes ou devant des jeunes hors établissement scolaire. Et du coup, on devrait apporter un autre type de réponse, une autre posture. Donc là, c'est la classe. Ils prennent des notes, ils vont être interrogés. Donc, il y a le professeur qui chapeaute. C'est intéressant pour nous parce que ça nous permet d'avoir 30 jeunes à l'écoute. Et bon, la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas forcément 30 jeunes à l'écoute de ces questions-là hors des établissements scolaires.
Justement, comment ça s'est passé un petit peu ces trois rencontres? Tu disais que tu avais une classe d'une trentaine d'élèves en face. Ils ont été réceptifs, ils ont participé, ça les questionne, ils posent des questions à toi, aux intervenants, aux personnes que tu emmènes. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une rencontre type justement ou est-ce qu'elles sont toutes différentes? Mais voilà, de manière générale, un petit peu, comment c'est perçu?
Alors, moi, je trouve que ça se passe très très bien. Je pense qu'il y a une vraie écoute. On peut pas rentrer dans les âmes de chacun et dans voilà, on sait pas. C'est une question qui, la question de l'accueil de migrants qui traverse l'actualité, que chacun appréhende à travers aussi la radio, les réseaux sociaux, la télévision ou des discours avec les amis, la famille. Donc, je pense qu'ils ont quelque chose à voir avec ça. Ils ont peut-être aussi une histoire personnelle pour deux ou trois d'entre eux avec ça, mais on connaît pas. Ce ressenti qu'ils ont, cette connaissance qu'ils ont. Donc on est dans une relation d'intervenant à élève avec des questions plutôt réfléchies. Et ils racontent pas n'importe quoi, ils demandent pas n'importe quoi. Donc on a l'impression d'apporter quelque chose, mais on peut pas gratter au fond. On rentre pas dans l'actualité chaude qui est celle d'aujourd'hui, hein, autour des questions migratoires. On est plutôt sur quelque chose de plus historique, géographique, lié aussi aux droits humains. Et donc on est dans un cadre un petit peu. On donne un cadre à tout ça pour que les élèves ensuite puissent mieux appréhender au quotidien cette question-là.
Aujourd'hui c'était Rokia, il y a eu deux autres rencontres avant donc avec Mimoun et Abdelkarim. Même question mais un peu dans l'autre sens, est-ce qu'ils t'ont fait des retours un peu de leur côté? Comment ça se passe? Est-ce que ça leur plaît de pouvoir en parler? Est-ce que qu'est-ce que ça peut leur apporter un petit peu ce genre de rencontre, d'aller parler à des lycéens comme ça?
Alors Abdelkarim m'a dit, c'est la première fois que je rentre dans un lycée en France. Et voilà, donc lui, il a été lycéen à Djibouti. Du coup, il m'a raconté le lycée à Djibouti, comment c'était. C'était l'occasion. Moi, je ne savais pas. Donc, ils sont fiers de rentrer dans un établissement public, scolaire. Il y a une institution, il y a un CDI, il y a des enseignants, on va dans la salle des profs. Bref, ils ont l'impression, et ce n'est pas faussé, d'être vraiment des ambassadeurs du projet de l'association. Ils savent aussi que c'est leur parcours qui va être mis en avant. Là, c'est un peu plus ambivalent. Je suis jamais sûr qu'ils aient envie de raconter tout. Voilà. Ils ont aussi des échéances administratives fortes. C'est le cas d'Abdelkarim, c'est le cas de Rokia. Pour Momine, lui, il a passé des étapes. Donc ils ont ces échéances en tête, mais je crois qu'ils sont assez fiers d'être entendus, d'avoir le temps d'exprimer des choses, de sentir qu'il y a un intérêt chez les élèves. Et je crois aussi que en tant que bénévoles de l'association, ils sont contents de faire avancer un des projets qui est la rencontre de la jeunesse.
Merci beaucoup Xavier, et on se voit bientôt. N'hésitez pas que vous avez des choses du côté sportif. Je te remercie.
Avec plaisir.
Donc on a fini cet entretien là au lycée avec Rokia, Xavier Seri, l'association sportive. Et Rokia, justement, donc vous avez entendu un petit peu son histoire juste avant. Je ne vais pas lui faire répéter parce qu'elle nous expliquait qu'elle la répète déjà assez souvent et assez de fois. Mais juste voilà, moi je voulais savoir qu'est-ce qui était important un peu pour toi de venir faire des rencontres un petit peu comme ça et de venir expliquer ton parcours. Pourquoi ça te paraît important? Pourquoi tu as dit oui? Pourquoi tu es venu?
Je m'appelle Rokia Soumaré, je suis malienne et j'ai 25 ans. Xavier m'a fait parvenir pour venir intervenir à un lycée pour notre association Sport International Solidaire pour l'exposition et puis intervenir sur un classe et pour parler de mon parcours administratif en tant que demandeur d'asile en France. Et c'était un énorme plaisir pour moi de venir assister à cette rencontre.
C'est important pour toi de discuter comme ça avec des jeunes qui ne connaissent pas forcément justement le parcours compliqué administratif. C'est important pour toi de venir un petit peu expliquer tout ça aux plus jeunes?
Oui, c'est très important pour moi et pour faire découvrir ce que nous on ressent à d'autres intervenants comme le collège et autres.
Est-ce que ça t'a plu déjà? Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus, tu sais, si tu vas le refaire un petit peu des interventions comme ça?
Bien sûr que je vais faire encore d'autres interventions à d'autres lycées. On a beaucoup des listes d'écoles à faire. Et donc, oui. Et donc, ça m'a beaucoup plu de développer les demandes d'asile et de parler. C'est un peu comme un soulagement d'en parler avec les autres pour comprendre pourquoi on est ici en France et on est venu faire quoi en France.
Merci beaucoup, Rokia, d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
Et donc, après avoir pu nous entretenir avec Xavier Seri et donc avec Rokia, des élèves se sont prêtés au jeu de la description de photos. Voilà, comme on vous le disait tout au long de l'émission, il y avait une exposition photo réalisée, donc proposée par Sportis au sein du CDI et du lycée Joseph Saverne. Trois élèves ont choisi une photo. Ils ont choisi de nous la décrire du mieux possible à l'oral pour la radio. On va écouter ce qu'ils en disent.
Alors, sur cette photo, on voit trois personnes sur un vélo, sur une route. En campagne, donc c'est plutôt une ambiance, un cadre plutôt sympathique, et puis ils ont l'air heureux, même il y en a un qui nous salue. C'est apaisant un peu comme photo, ça fait ça nous rend heureux.
Et pourquoi t'as choisi, qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette photo?
Déjà moi ça m'a interpellé. On a l'impression qu'il veut nous parler à travers ce salut, et puis en même temps on voit le Gers dans toute sa beauté un peu.
Donc sur cette photo, on voit trois personnes de dos avec des boules de pétanque dans les mains. Ils sont plutôt dans la nature. On voit quelques petits bâtiments derrière. Et on voit aussi que ces trois personnes, elles sont d'origine différente. On a un qui est typé africain. L'autre plutôt américain du Sud ou Moyen-Orient, et l'autre enfin plus européen. Donc on voit qu'il y a quand même une grande diversité d'origines qui arrive à se relier, à se mélanger à travers le sport. Et puis
et quel sport en particulier?
Et la pétanque, donc moi ça me parle parce que je fais de la pétanque en club.
En plus
Et puis les règles de la pétanque, c'est plutôt facile à comprendre et à expliquer. Donc c'est sûr que c'est un sport qui peut bien relier, même avec des langues différentes.
Alors sur cette photo, on peut voir plusieurs personnes qui dansent, qui font des mouvements. Et je trouve ça très intéressant. Déjà, on voit qu'il y a un assez bon éclairage et surtout, les personnes sont dans des tenues totalement différentes. Il n'y a pas forcément de dress code comme pour la danse. Généralement, on nous dit il faut s'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Alors là, c'est beaucoup plus libre. Et on voit que c'est vraiment chacun a son type de mouvement. Ils sont tous les bras vers le haut, mais chacun dans son style. Et donc ça, c'est la danse, et je trouve ça super intéressant de mettre sa petite personnalité dans nos mouvements. Et je trouve ça super cool. C'est ça que j'aime dans la danse. On voit qu'ils sont heureux d'être là, quoi.
C'est la fin de ce reportage aujourd'hui sur les ondes de Radio Fil de l'eau. J'ai plein de monde à remercier. Tout d'abord, Xavier Seri, président de l'association Sportis Rokia, également donc d'être venu parler à mon micro. Un grand merci également à Madame Bourdoncle, professeur au sein du lycée Joseph Saverne, et à Claudine Tessèdre, documentaliste du lycée, également de nous avoir inclus dans ce projet. Un grand merci également à tous les élèves, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'enregistrement de cette émission de radio. Tous les élèves de la classe de seconde 9 du lycée Joseph Saverne, merci à vous de vous être prêtés au jeu, merci à vous d'avoir parlé dans mon micro, c'est pas toujours facile, et merci à vous de nous avoir fait découvrir un petit peu, et bien voilà, tout ce beau projet. Les programmes continuent sur les ondes de Radio Fil de l'eau, 106.6 à Lille-Jourdain, 100.9 à Florence et www.radiofildelot.fr pour nous suivre sur le net ou retrouver tous nos programmes en podcast. Une très bonne journée à toutes et à tous.